Vous écoutez France Culture.
Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb. Jean-François Colosimo, vous continuez de travailler avec constance sur le rapport du fait religieux avec le politique, après Dieu est américain, après l'apocalypse russe, là vous situez la problématique dans le contexte de l'islam et plus précisément encore au sein de la République islamique. Alors d'où vient cette passion, cette constance, Jean-François Colosimo, cette certitude qu'il y a une conjonction entre le religieux et le politique, et ça paraît convenu pour ce qui concerne l'islam, mais déjà vos antériorités ont touché à la question en Amérique, en Russie, ou en Amérique on peut peut-être comprendre déjà. Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, constate que la religion est très étrangement présente, même dans le processus des Lumières, alors que ce processus, dans son pays d'origine, la France, s'est fait contre la religion plutôt, tandis que là, la religion semble sollicitée. Il rappelle d'ailleurs que la toute première loi, la charte du Connecticut, était complètement pour le pénal scripturaire, vous vous souvenez. Donc là, on comprend un peu l'effet, l'empreinte du religieux dans l'espace politique américain. Pour la Russie, c'est déjà plus compliqué, à moins qu'il y ait toute une archéologie orthodoxe, que même le communisme n'aurait pas oblitéré. Je sais que vous-même, vous avez un lien originel avec l'orthodoxie, oui, si je ne me trompe pas.
Je suis orthodoxe, oui, chrétien orthodoxe. Oui, absolument. Je crois qu'effectivement, on fait une grande injustice à l'islam lorsqu'on le prend comme le lieu même du paroxysme religieux aujourd'hui. Ce paroxysme religieux, il est universel. Alors évidemment, s'il prend une forme parfois extrême dans le monde musulman, c'est en raison des circonstances politiques et historiques, beaucoup plus qu'en raison de la structure religieuse, à mon avis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la structure, le fait religieux dans sa relation aux politiques. Le fait que, comme le disait Carl Schmitt, qui est un auteur très décrié, mais les auteurs décriés peuvent avoir de bonnes et de vraies formules.
Il faut avouer qu'il y a eu un moment idiot, comme tout Allemand, qui s'est coltiné avec le nazisme, bien sûr, avec cet Hitler qui est un idiot. Je reprends l'expression de Eric Voglin, qui est tout à fait pertinente. Voilà. Mais c'est un très grand penseur, et il nous aide à réfléchir à le politique et surtout le théologico-politique. Cela est incontestable.
Absolument. Et donc il a
ex-nazis sont vraiment... Il se transforme en idiot.
Ils sont insoutenables, irrecevables, et effectivement, mais on en a un autre cas, et de guerre. Passons là-dessus. Que dit Carl Schmitt? Il dit toutes les grandes idées politiques modernes sont des concepts théologiques laïcisés.
Sécularisés.
Pourquoi? Eh bien, c'est ce que j'essaie de montrer à travers cette série, c'est que, en fait, ce qu'on appelle le retour du religieux n'est pas un retour du religieux. Aucun juif hassidique du Shtetl, aucun grand exégète coranique de l'Andalousie, aucun théologien latin scolastique médiéval ne se serait reconnu dans les fondamentalistes et les fondamentalismes d'aujourd'hui. Nous avons donc affaire à un phénomène moderne. Les fondamentalistes ne sont pas des anti-modernes, même s'ils se posent ainsi, ce sont des enfants, je dirais, adultérins de la modernité. C'est ce qu'il faut bien comprendre.
C'est ce que aussi Dariush Shangan appelle les pires anti-occidentaux, ce sont des occidentalisés inconscients.
Absolument. Et donc il y a là un renversement que j'essaie de montrer, parce que la grande année finalement, aujourd'hui on fête le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, on a raison, mais la grande année du tournant du 20e siècle, ce n'est pas 1989, c'est 1979.
C'est-à-dire le 30e anniversaire de la République islamique.
Oui, mais c'est l'année aussi où Ronald Reagan gagne l'investiture républicaine grâce au ralliement des fondamentalistes, n'est-ce pas, aux États-Unis. C'est l'année où Jean-Paul II est le premier pape à se décider à se rendre derrière le rideau de fer en Pologne. Il vient juste d'être élu pape et il se prépare à aller affronter directement le communisme. Et c'est l'année où Léonid Brejnev décide l'invasion de l'Afghanistan et où la puissance soviétique, qui semblait jusque-là irrésistible, va se briser sur les Moudjahidines.
Qui va être la matrice de cette internationale djihadiste.
Absolument, puisqu'on peut dire que le 11 septembre, c'est aussi la manière dont Ben Laden, qui a été allié des Américains dans la guerre contre l'Empire soviétique...
C'est lui qui a introduit la technique, l'usage des fusées, les Stiglers, si je ne me trompe pas, qui étaient par en dessous, financés, soutenus par Reagan en personne.
Ça a été une décision de la
sécurité militaire américaine.
Bien sûr, pour armer ces Moudjahidines, qui est effectivement leur foi, mais qui étaient dépourvus aussi...
Et qui d'un seul coup ont énormément fragilisé la suprématie dans les cieux de l'aviation soviétique.
À ce moment-là, les Soviétiques ont commencé leur longue, lente, mais inexorable débâcle. Donc, le 11 septembre, Ben Laden porte le fer par rapport à son ancien allié et pose la question. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, qui a gagné la guerre contre le communisme athée ? Est-ce que c'est vous, les Américains, avec votre Dieu, mais aussi votre argent, ou c'est nous, avec notre Dieu et notre sang ? Et la preuve, c'est que nous avons des martyrs. Et vous frappe là, au cœur de votre territoire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que cette guerre politique, elle emploie, instrumentalise le religieux, en fait, dans un cadre assez classique, où les nations ont encore voix au chapitre, en dépit de la mondialisation, où les héritages
vous
historiques...
Vous pensez que c'est encore au nom des nations, parce que l'exemple même de Ben Laden, c'est l'exterritorialisation, et c'est la critique très très violente, justement, de l'effet, selon lui, ravageur de l'État-nation, alors qu'il n'a jamais disparu. C'est le califat qui a été une utopie en
bien
islam.
L'Égypte
en tant qu'entité a tout le temps été là, la Mésopotamie en tant qu'antiquité a tout le temps été là.
Cette internation...
L'Africa, d'ailleurs, de l'actuelle Tunisie, même en arabe, on l'appelait Ifriqiya, c'est-à-dire la continuité latine, toujours présente.
Mais cette internationalisation, elle se fait quand même par rapport à un sol, à un territoire, à un héritage, évidemment, qui va être controuvé, qui va être distordu. Dans le cas de Ben Laden, c'est évidemment tout de même le berceau, l'Arabie saoudite, la Mecque, le sunnisme, le wahhabisme. Cette même année 1979, que j'évoquais tout à l'heure, l'imam Khomeini prend le pouvoir à Téhéran. Vous voyez, et ce phénomène de nationalisme, internationalisme, il va jouer à fond dans le cas de l'Iran. Puisqu'en même temps, Khomeini va revendiquer le leadership, si je peux m'exprimer ainsi, à France Culture, c'est-à-dire la suprématie du mouvement islamiste international. Et en même temps, ce mouvement s'affirme comme très persan, très chiite. Les deux à la fois, avec des alternances. Systole, diastole, n'est-ce pas ? On passe de l'un à l'autre de manière permanente pour ce qui est de l'Iran islamique. Et on le voit aujourd'hui, où à la fois on a une nation qui est extrêmement bunkérisée, et en même temps l'affirmation de ce fameux archiite auquel il ne faut peut-être pas croire autant qu'on le dit, mais qui existe tout de même, et qui a été favorisé évidemment par l'invasion américaine en Irak. Donc on voit qu'aujourd'hui, les chiites qui étaient des musulmans qui se considéraient comme réprimés, puisque entre sunnites et chiites, c'est une contestation d'héritage. Qui est le véritable héritier ? Et les chiites ont endossé cette notion d'être les déshérités. Et voilà qu'ils projettent d'une manière très moderne cette notion d'être déshérités. Ils la projettent à l'horizon du monde en se revendiquant finalement comme les guides de tous les déshérités du monde. C'est comme ça que l'imam Khomeini, qui est quand même un conservateur, devient à un moment vraiment une figure du tiers-mondisme. Donc les deux vont ensemble dans l'espace moderne.
Et un des très étranges contrastes, puisque vous évoquez les chiites, l'intervention américaine est bénie par les chiites irakiens, il faut le dire, parce que sans elle, jamais ils n'auraient connu ce leadership qui a été le leur. Et moi, j'ai lu des textes émanant d'eux, pas seulement d'autorités religieuses, mais même de chiites qui étaient sécularisés à l'époque et qui ont eu souvenir de l'oppression qu'ils ont eue en tant que chiites. C'est la fin de 1400 années d'oppression, vous vous rendez
bien
compte
sûr.
Et en même temps, cet autre effet très très étrange, reconnaissance donc à l'intervention américaine de la part des chiites irakiens, reconnaissance probablement tue mais réelle de la part des chiites iraniens, parce que sans cette intervention et sans qui a libéré les chiites irakiens, il n'y aurait pas eu les conditions objectives de la stratégie chiite fort efficiente dans toute la région, des frontières d'Israël avec le sud du Liban, aux frontières méridionales de l'Arabie, avec ce qui se passe en ce moment même avec les chiites yéménites.
Absolument, mais c'est encore plus large même, puisqu'à un sens, aujourd'hui, ce fameux arc ou croissant chiite, encore une fois, dont il ne faut pas exagérer la consistance, parce que les débats ethniques, les débats linguistiques, les débats culturels, n'est-ce pas, être un chiite persan et être un chiite arabe, ce n'est pas exactement la même chose, par exemple. Mais évidemment, cet arc chiite, il va de la Méditerranée à l'océan Indien. Et il va finalement aussi...
Oui, parce qu'il y a les chiites pakistanais et afghans.
Et puis même, il y a les Ismaéliens...
Donc, toute une série de poches de minorités, en somme.
Les Ismaéliens qui sont sur la côte indienne et qui se reconnaissent dans le chiisme. Les Alaouites qui sont au pouvoir en Syrie et qui ne sont reconnus...
D'où l'alliance.
Qui ne sont reconnus que par les chiites, n'est-ce pas? Comme des musulmans, on dirait à part entière, parfaitement orthodoxes. Évidemment, on a le nord de l'Arabie saoudite, mais ça remonte au Caucase. L'Azerbaïdjan, qui est le deuxième pays chiite au monde. Donc il y a véritablement là un mouvement historique extrêmement fort, et j'ai pensé qu'il fallait l'analyser pour ce qu'il était, parce que ce mouvement historique, il était représentatif, au fond, il permettait d'avoir un prisme peut-être un peu moins manichéen qu'à l'habitude, sur les questions qui se posent aujourd'hui au monde musulman, que le monde musulman pose au monde, dans son ensemble, et que nous pouvons nous poser avec les musulmans, et certainement pas, encore une fois, contre eux, parce qu'il me semble qu'il y a aujourd'hui une forme d'islamophobie qui participe de l'ignorance.
Jean-François Colosimo, avant de continuer d'essayer de comprendre avec vous, comme vous avez posé l'espace à partir duquel nous allons échanger et sur lequel nous aurons à réfléchir, et nous convions nos auditeurs à le faire en notre compagnie et en découvrant votre livre, Jean-François Colosimo, Le paradoxe persan incarné iranien aux éditions Fayard. Avant cela, ce lien entre écriture et image, parce que c'est incarné, mais incarné de voyage, d'un voyage destiné à enquêter pour que tout cela parvienne à un reportage. Quelle est la forme
qu'on pourrait appeler ? Oui, c'était un film documentaire
fait pour Arte.
Qui s'appelait produit par Olivier
Lille. Il en est de même, d'ailleurs, pour Dieu est américain comme pour l'Apocalypse russe.
Voilà. C'était vital de montrer que le religieux, c'est du politique et le politique, c'est du religieux. Et il faut peut-être certainement la sécularisation intense de l'Europe pour ne plus s'en rendre compte, n'est-ce pas ? Mais partout où vous allez dans le monde, c'est comme ça. En terre d'islam, comme dans d'autres terres, l'Amérique ou la Russie, par exemple. Il y a deux sens au religieux. Vous savez, quand on regarde l'étymologie, il y a reléguéré, c'est le regard qui va vers le ciel, c'est le regard du contemplatif, c'est le regard du mystique, c'est le retour sur soi, le sacré, le sacrement.
Et ce qui nous,
ce qui lie.
Fait lien.
Et ça, c'est horizontal, c'est pas vertical, on regarde pas en haut, c'est ce qui nous fait vivre ensemble. Et il n'y a pas de collectivité humaine qui ne participe pas d'une certaine représentation d'elle-même qu'elle projette dans l'invisible.
Alors que le mot arabe, religion, dîn, a un tout autre rapport, c'est un rapport avec la dette.
Mais on peut dire que toute société humaine va fonctionner sur une représentation transcendante. Cette représentation transcendante, elle va déterminer une clôture. Nous et eux. On va tracer un sillon entre nous et eux. C'est Romulus et Rémus, la fondation de Rome, mais toute fondation est ainsi. L'orthodoxe et l'hétérodoxe, le fidèle et l'infidèle.
Il y a cette autre terrible tension qui a été si active dans l'histoire de l'islam entre l'homme de l'expérience, l'homme de l'État, comme on dit en arabe, et l'homme de la loi.
Bien sûr. Alors évidemment, la loi, l'articulation...
C'est-à-dire le mystique et le docteur de la loi.
Bien sûr.
Il y a une terrible opposition.
Entre
aussi.
Évidemment le légalisme et, je dirais, effectivement, on pourrait dire une conception plus herméneutique du fait religieux. Mais de manière générale, la religion va produire un ensemble symbolique qui, même une fois qu'il sera laïcisé, même une fois qu'il sera sécularisé,